Merci. Merci à vous tous d'être là. Et merci à Marinette Richer d'avoir organisé ce colloque. Donc, je suis Nicolas Grammer, je suis membre de l'association Rétina France et correspondant local de cette association dans l'Essonne. J'habite à Villebon-sur-Yvette, donc pas très loin d'ici. Je vous parlerai un peu plus de l'association elle-même à la fin de mon exposé. Mais pour l'instant, je voudrais vous parler de malvoyance. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont concernés personnellement, il y en a qui sont concernés indirectement à travers un membre de leur famille, et puis il y en a peut-être qui sont simplement venus par curiosité, savoir ce que c'est que ces curieuses maladies de la vue. Quand je dis que je vous parlais de malvoyance, il y a un S à la fin de malvoyance, je ne sais pas si vous l'avez entendu, parce que la vision c'est quelque chose de très compliqué. Quand on a l'habitude de la résumer par un seul chiffre, on dit j'ai 8 dixièmes, j'ai 3 dixièmes, en dessous de 3 dixièmes on est malvoyant, mais c'est complètement caricatural. La vision c'est pas seulement l'acuité visuelle, il y a le champ visuel, il y a la vision des couleurs, il y a la perception des contrastes, il y a l'accommodation, il y a énormément de paramètres différents qui définissent la vision, et chacun de ceux-là peut aller mal, peut se dérégler, et ça donne une forme de malvoyance particulière. Donc quelqu'un qui a une mauvaise acuité visuelle ou quelqu'un qui a un champ visuel réduit peuvent être l'un comme l'autre considéré comme malvoyant, et pourtant ils ne vivront pas du tout la même chose. Et bien sûr, il peut y avoir plusieurs fonctions qui se dégradent en même temps, puisque dans l'œil tout est lié. Donc on ne peut pas parler d'une malvoyance, et je vais essayer de vous décrire un certain nombre de situations qui peuvent être vécues par des personnes malvoyantes en espérant que certains d'entre vous se reconnaîtront dans certaines de ces situations, mais évidemment pas dans toutes. Personne ne peut, heureusement, vivre personnellement toutes les formes de malvoyance en même temps. Je vais essayer de faire, disons, un survol de ce qui peut se passer quand la vue vient à baisser, et en espérant que, voilà, que ça parlera à ceux d'entre vous qui sont concernés directement ou indirectement. Je vais en particulier, parmi les différences qu'il peut y avoir, disons, dans les différentes formes de malvoyance, il y a le fait que ça peut être évolutif ou stable. Donc on peut très bien naître avec 2 dixièmes de vision et les garder toute sa vie. À ce moment-là, on est malvoyant, mais bon, on y est adapté, on apprend à vivre comme ça, et on finit par trouver ça normal, disons, puisqu'on n'a rien connu d'autre. Au contraire, il y a des formes qui évoluent, soit brutalement, on peut par exemple avec une dégénérescence maculaire liée à l'âge, une DMLA, on peut perdre une grande partie de sa vision en très peu de temps, ou alors très lentement, avec une rétinopathie pigmentaire, on peut perdre la vision progressivement sur 40, 50, 60 ans. On peut commencer à se rendre compte qu'on a une vision déficiente à l'âge de 10 ans et avoir encore une vision résiduelle à 70 ans. Donc je vais prendre, à partir de cet exemple, de quelqu'un qui perd la vue progressivement, pour voir quelles sont les différentes étapes par lesquelles il va passer. Sachant que dans d'autres situations, on va peut-être passer toutes ces étapes d'un seul coup, ou même les avoir déjà passées à la naissance, au moment de la prise de conscience. Simplement, pour illustrer les différents troubles qui peuvent être liés à une malvoyance, c'est plus facile si on peut les séparer un petit peu en différentes étapes. Donc je parlerai de ce qui peut se passer avant le diagnostic, après le diagnostic, et puis de quelques étapes par lesquelles beaucoup de gens passent, beaucoup de malvoyants passent, pas forcément toutes et pas forcément dans l'ordre, mais qui peuvent être la perte de la conduite automobile, la perte de la lecture et la prise de la canne blanche. Encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont concernés par ces différentes étapes. Donc je les ai prises comme exemple. Alors, avant le diagnostic, on peut être malvoyant et ne pas s'en rendre compte. Ça peut paraître très curieux. Bien entendu, si on a une acuité visuelle qui baisse, on s'en rend compte. si on n'arrive plus à lire ce qu'on lisait, si on ne reconnaît plus un visage, on voit bien qu'il y a quelque chose d'anormal et on va consulter un ophtalmo. Mais il n'y a pas que ça. Je pense à la baisse de la vision nocturne, par exemple. Les rétinopathies pigmentaires commencent souvent avec une vision normale dans la journée, mais très réduite la nuit. Or, on peut considérer que c'est normal. Quand il fait noir, complètement noir, personne ne voit. Tout le monde est aveugle dans la nuit complète. Mais c'est rare, surtout dans nos sociétés urbanisées, qu'on soit dans le noir complet. Donc quand il y a très peu de lumière, on peut être dans une situation où une personne normale verra un petit peu, et une personne qui commence à être déficiente visuelle ne verra pas. Mais en l'absence de mesures, de tests précis, on ne peut pas savoir ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. On finit par s'en rendre compte par comparaison avec les autres. Si on est dans une pièce, on dit « Oh là là, là je vois rien du tout », et que celui d'à côté dit « Mais si, moi je vois des choses », on se rend compte que c'est anormal, mais ça peut prendre très longtemps. Donc on peut déjà avoir beaucoup perdu de sa vision nocturne avant même d'être conscient qu'il y a un problème. On dit simplement « Ben oui, il fait noir, je ne vois pas, c'est normal ». Encore plus surprenant peut-être, la perte du champ visuel. On rencontre des gens assez fréquemment qui disent « Voilà, moi j'ai le champ visuel qui s'est rétréci et je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce qu'il soit réduit de moitié ou de plus de moitié ». Donc on peut perdre la moitié de sa vue, en fait, sans s'en rendre compte. Ça, évidemment, ça peut paraître un peu paradoxal. En fait, il y a de bonnes raisons pour ça. Déjà, le champ visuel, une personne qui a une vision normale, en général, ne sait pas de combien il est. Parce que si je vous demande comme ça d'emblée quelle est votre acuité visuelle, en général, vous le savez, parce que l'ophtalmo vous l'a dit. Si je vous demande de combien de degrés s'étend votre champ visuel de chaque côté, il y a de bonnes chances que vous ne sachiez pas. Bon, une vision normale, c'est à peu près 180 degrés, 200 degrés, donc c'est-à-dire un petit peu plus que juste sur le côté. On voit un tout petit peu vers l'arrière, mais pas beaucoup. Le docteur Abitbol me corrigera si je me trompe. Voilà, mais on n'en a pas conscience. Et qui plus est, on ne voit pas les bords de son champ visuel. C'est-à-dire, si je mets la main devant moi, là je la vois, je la déplace sur le côté, et à un moment elle va disparaître. Disparaître, c'est vraiment disparaître. C'est pas que ça devient noir, c'est pas que ça devient flou, c'est pas que c'est caché derrière quelque chose, ça n'existe plus. On ne perçoit pas les bords de son champ visuel. Si vous mettez des œillères, vous verrez bien qu'à un moment, il y a du noir et que vous ne voyez pas ce qu'il y a au-delà. Mais le champ visuel naturel, il a des limites qu'on ne perçoit pas. Si bien que, évidemment, si ces limites se déplacent, on ne s'en rend pas compte non plus. C'est-à-dire que si je tends ma main devant moi et elle disparaît quand elle est là, par exemple, à 45 degrés, au lieu de disparaître quand elle est complètement sur le côté, si je ne fais pas ce test consciemment, en disant je vais mesurer mon champ visuel, dans la vie de tous les jours, je ne m'en rendrai pas compte. Parce que je ne verrai pas une bordure noire à 45 degrés. Et quand je dis 45, avec une rétinopathie avancée, ça peut être beaucoup moins, ça peut être à 5 degrés. On peut très bien tendre la main devant soi, la mettre comme ça, juste un tout petit peu sur le côté, et qu'elle disparaisse. Bon, quand ça arrive à ce stade-là, on s'en rend compte parce qu'il y a d'autres symptômes qui vont avec. Mais on peut très bien avoir le champ donc, qui est réduit de moitié et ne pas s'en être rendu compte. En plus de ça, on peut même avoir des trous dans le champ visuel, c'est-à-dire des zones dans lesquelles on ne voit pas, toujours sans s'en rendre compte. Quand c'est en plein centre, là on s'en rend compte. Quand typiquement la DMLA, qui se traduit par une tache aveugle au milieu du champ visuel, là on s'en aperçoit parce que c'est des choses qu'on fixe, qu'on ne voit plus. Donc là c'est clairement pas normal. Par contre, si on a ce qu'on appelle un scotome, c'est-à-dire une tache aveugle un petit peu sur le côté, on peut très bien ne pas s'en rendre compte. Parce qu'en fait, notre cerveau, notre système visuel, a un mécanisme qui est prévu exprès pour remplir ce genre de trou. Pour ça, il y a une raison, c'est que tout le monde a ce qu'on appelle une tache aveugle, ça c'est tout à fait normal. Il y a une petite zone de la rétine qui ne voit pas. Et donc, bon, c'est une expérience qui est connue, on voit ça dans les journaux d'enfants souvent, on dessine un point et une croix côte à côte sur la feuille, puis on vous dit, vous fermez un œil, vous fixez le point, et en déplaçant un petit peu la feuille, ah, il y a un endroit, un moment, où quand on regarde le point, on ne voit plus la croix qui est à côté, si on est juste à la bonne distance, parce que la croix est tombée sur la tache aveugle de la rétine. Donc ça, c'est un phénomène tout à fait normal, et du coup, pour qu'on ne s'en rende pas compte, entre guillemets, notre cerveau a tout un tas de mécanismes qui permettent de remplir cette tâche, de faire en sorte qu'on ne l'aperçoive pas, et remplir avec ce qui est autour, en utilisant aussi la vision des deux yeux, les mouvements des yeux, enfin bon, je détaillerai un peu plus si ça vous intéresse, si vous voulez poser des questions à la fin, mais ce n'est pas l'objet. Mais le résultat, c'est que si on a une tache aveugle comme ça, qui n'est pas normale, qui est pathologique, à cause d'une maladie de la rétine, eh bien, le cerveau va utiliser le même mécanisme pour la remplir, et donc on ne va pas s'en rendre compte. On va voir une image complète, alors qu'en fait, il y a des bouts qui n'y sont pas. Ça, évidemment, ça peut être dangereux. Imaginez que vous êtes au volant, il y a une voiture qui arrive de votre droite, et puis l'image de cette voiture tombe pile sur la tache aveugle. Vous n'allez pas voir une tache noire qui cache quelque chose derrière, vous n'allez rien voir du tout, vous allez voir une route dégagée. Et en fait, c'est parce que le cerveau a pris les deux bouts de la route dégagée à droite et à gauche et a rempli le milieu avec cette même route dégagée, alors qu'en fait, il y a une voiture. Évidemment, ça peut avoir des conséquences que je vous laisse imaginer. Bon, c'est un peu caricatural de décrire ça comme ça, parce qu'en fait, nos yeux bougent sans arrêt, donc la voiture ne va pas tomber pile sur la tache aveugle pendant un long temps. Mais disons que ça va conduire à se cogner, à ne pas trouver ce qu'on cherche. Ça a des conséquences dans la vie quotidienne. Et encore une fois, ça, on ne le perçoit pas directement. On le perçoit indirectement par le fait que on va bousculer quelque chose. Si on tend la main pour attraper un morceau de pain sur la table, et puis il y a le verre qui était entre soi et le morceau de pain, on va le bousculer au passage parce qu'on ne l'aura pas vu. Alors évidemment, quand on renverse un verre, on ne se dit pas tout de suite « Ah là là, je suis malvoyant, il faut que je consulte l'ophtalmo. » Ça arrive à tout le monde de renverser des verres. Mais pas forcément pour les mêmes raisons. Voilà, donc pour tout un tas de raisons comme celle-là, on peut très bien commencer à perdre la vue, être significativement malvoyant, absolument sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est une étape par laquelle passent, je dirais, la plupart des gens qui ont des maladies à évolution lente, surtout quand c'est une atteinte périphérique, donc la déficience se fait par les côtés, alors que la vision centrale est restée bonne. Bon, et puis un jour ou l'autre, on finit quand même par être diagnostiqué, soit parce que, à force de se cogner, de renverser des choses, on finit par trouver qu'il y a quand même quelque chose de bizarre, soit, par hasard, on va faire un contrôle de routine chez l'ophtalmo, on pense qu'on a besoin de lunettes, et l'ophtalmo fait un examen un peu plus poussé et dit, non, je suis désolé, vous n'êtes pas simplement myope, vous avez une maladie de la rétine. Alors là, il y a toutes les joies qu'on peut avoir face à un diagnostic comme ça. Bon, je ne vais peut-être pas m'étendre sur les relations entre les médecins et les malades. C'est un vaste sujet qui n'est pas spécifique à l'ophtalmologie. On rencontre la même chose dans les annonces de toutes sortes de maladies plus ou moins graves. Donc ça peut se passer très bien, heureusement. Il y a des médecins tout à fait humains et conscients du choc que leur révélation peut faire aux patients. Puis il y en a d'autres qui vont dire voilà, vous avez une rétinopathie pigmentaire, dans 20 ans vous serez aveugle, au revoir, je ne peux rien faire pour vous. C'est pas forcément très agréable de s'entendre dire comme ça. C'est là d'ailleurs que peuvent intervenir des associations comme Rétina France, à condition que l'ophtalmo prenne la peine de signaler leur existence. Et puis, bon, il y a des services qui peuvent prendre en charge aussi le côté psychologique. Quand un ophtalmo dit « je ne peux rien faire », ça veut dire sur le plan strictement médical « je ne peux rien faire », il n'y a pas de traitement pour votre maladie. Ça ne veut en aucun cas dire qu'il n'y a rien à faire dans sa vie pour accepter, pour s'adapter, pour réarranger sa vie autour de cette difficulté supplémentaire. Sachant que le plus souvent, au moment du diagnostic, on n'est pas handicapé. Dans le cas d'une maladie à évolution lente, l'annonce c'est « vous serez handicapé un jour ». Et en plus, on ne peut pas dire quand, puisque la vitesse d'évolution de la maladie est plus ou moins imprévisible. Donc je ne peux pas dire que c'est plus difficile à entendre, évidemment. C'est beaucoup plus dur si vous avez un accident et que vous perdez la vue du jour au lendemain. C'est beaucoup plus difficile de s'y adapter que quand la perte se fait progressivement. Mais il n'empêche que c'est une situation un peu particulière. C'est se dire, voilà, actuellement j'ai une petite gêne, je sais que cette gêne va devenir de plus en plus grande, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, je ne sais pas quand. Et là aussi, le fait de faire partie d'une association et de rencontrer d'autres gens qui sont passés par là avant peut être d'une grande aide. Je dis une association, mais ça peut être aussi, par exemple, des groupes de discussion sur Internet qui permettent de rencontrer des gens, en particulier quand on a une maladie très rare, qui a peu de cas en France ou dans le monde. C'est difficile de rencontrer des gens qui ont la même maladie en personne. Sur Internet, c'est beaucoup plus facile puisqu'on ratisse beaucoup plus large. Donc après le diagnostic, Bon, il y a différentes étapes. Les psychologues décrivent différentes étapes que je connais peu par cœur. Il y a le déni, il y a la révolte, il y a etc. qui sont plus ou moins généralisables, disons. Tout le monde ne passe pas forcément par ces étapes et pas forcément dans cet ordre-là. Et c'est vrai qu'il y a quand même des tendances générales qu'on retrouve. Je ne veux pas m'étendre sur les aspects psychologiques. Je ne suis pas très compétent pour en parler et ce n'est pas vraiment l'objet. Je vais rester plutôt sur le côté pratique de la vie avec une vision réduite. Donc ensuite, une fois qu'on sait qu'on est malvoyant, du moins qu'on va le devenir, en tout cas qu'on a une vision qui n'est pas tout à fait normale, mais qu'elle reste encore tout à fait bonne, qu'on peut toujours lire, conduire, etc. Là, c'est une période que je caractériserais par l'expression « ça arrive à tout le monde ». C'est-à-dire qu'on va rentrer chez soi en disant « oh là là, je me suis cogné dans un poteau que je n'avais pas vu en marchant sur le trottoir parce que je suis passé juste à côté et qu'il est passé juste à côté de mon champ visuel ». Et la personne qui vous dit ça dit « oh oui, tu sais, moi aussi ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde de se cogner dans des poteaux ». Ce qui n'est pas faux, c'est arrivé à tout le monde au moins une fois dans sa vie, en courant, parce qu'on était distrait, etc. Mais ce n'est pas la même chose. Là, on sait qu'il y a une cause bien particulière. On sait que ça va se reproduire, ce n'était pas une inattention. Et ça devient, je dirais, peu à peu, une angoisse plus ou moins marquée, mais toujours latente quelque part dans un coin de la tête. Notre corps et notre cerveau, je ne sais pas, est très bon pour se rappeler les endroits où il y a eu des problèmes. Si une fois vous vous pincez les doigts dans un placard, ensuite pendant 10 ans, à chaque fois que vous fermerez ce même placard, vous aurez un petit pincement au cœur, si je puis dire, une petite arrière-pensée, qui dit, ah oui, tiens, c'est là que je me suis pincé le doigt. Et bon, si c'est arrivé une fois, voilà, c'est associé à ce placard, c'est comme ça. Si vous êtes passé sur un trottoir, que vous êtes cogné dans un réverbère, vous allez, pareil, avoir ce petit souvenir à chaque fois que vous passez à cet endroit-là. Quand ça devient quelque chose de fréquent, de quotidien, en fait, si à chaque fois qu'on marche sur un trottoir, on a dans l'idée, ah mais, il y a peut-être un réverbère qui va surgir comme ça, brusquement, inopinément, et me rentrer dedans, puisque c'est comme ça qu'on le perçoit, en fait. C'est jamais moi qui suis rentré dans le réverbère. Moi, j'allais tout droit, j'ai bien vu qu'il n'y avait rien devant moi, et cet idiot de réverbère m'a foncé dedans. Donc, si ça se produit assez souvent, on finit par avoir cette petite arrière-pensée en permanence. Chaque fois qu'on se déplace sur un trottoir, on est tendu, on se dit, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Est-ce qu'il y a une voiture mal garée que je ne vais pas voir, une poubelle, un réverbère, quelque chose? Et ça finit par être une source de tension à la fois psychologique et même physique. Quelquefois, on peut avoir des douleurs dans le dos, dans les épaules, à force d'être toujours contracté, prêt à encaisser un choc. De même, dans les gestes de la vie quotidienne, je donnais l'exemple tout à l'heure, quand on étend le bras pour attraper un morceau de pain et qu'on renverse le verre qui était sur le chemin parce qu'on ne l'a pas vu, quand ça s'est produit un certain nombre de fois, à chaque fois qu'on étend le bras pour attraper quelque chose, on a cette idée, ah oui, mais attention, je vais peut-être renverser quelque chose. Alors évidemment, ça arrive à tout le monde de renverser un verre, mais ça n'arrive pas à tout le monde d'y penser en permanence, de ne pas pouvoir faire un geste sans se dire, oh là là, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Ça, c'est le premier côté, je dirais, ça veut dire handicapant, non pas handicapant, mais qui commence à envahir la vie vraiment de façon permanente. Tant qu'on a une vue relativement bonne, on n'est pas obligé d'y penser tous les jours. Il arrive un moment où on commence à y penser tous les jours, même si on n'est pas concrètement gêné tous les jours, mais parce que on sait qu'il peut toujours se produire quelque chose en rapport avec cette vue qui baisse. Quand on est au volant, évidemment, si on est un tant soit peu responsable, on a aussi cette idée, s'il y a un gamin qui traverse la rue en courant devant moi et qu'il arrive dans mon champ visuel un peu trop tard, qu'est-ce qui peut se passer? Donc on est dans cette période du « ça arrive à tout le monde », c'est-à-dire que vu des autres, vu par les autres gens, finalement, ce qui nous arrive, c'est pas grave, c'est bénin, on vit tout à fait normalement, on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi on a sans arrêt cette petite angoisse toujours latente et qui ne nous abandonne jamais. Donc, si vous êtes face à quelqu'un qui est dans ce cas-là, souvent c'est un enfant d'ailleurs, parce que ces maladies peuvent commencer à évoluer dès l'enfance, puis aussi parce que les enfants, quand ils se cognent ou quand ils bousculent des gens, on a tendance à dire, oui, bon, c'est parce qu'il ne fait pas attention, c'est normal à son âge, voilà, c'est un fonceur, il est distrait. Et du coup, on minimise la chose. Alors que pour la personne qui le vit, même si concrètement c'est peu de choses, dans l'esprit, c'est quand même quelque chose de très important. Avec en plus cette idée que ça va évoluer et que ça ne va pas s'arranger. Donc soyez en conscient, si vous êtes face à cette situation, ne minimisez pas. Ce n'est pas consolant pour la personne à qui ça arrive de s'entendre dire « non, c'est pas grave ». Ce qui est consolant, c'est plutôt de dire « oui, écoute, c'est vrai, c'est pas agréable, mais bon, on est avec toi, tu sais, tu peux vivre quand même très bien avec ça ». Il ne faut pas nier, mais évidemment pas dramatiser non plus. Facile à dire, vous me direz. Oui. Quand je suis dans cette situation face à quelqu'un, je ne sais pas mieux que quiconque comment la gérer vraiment. Mais au moins, il faut en être conscient. Alors, reprenons l'évolution de notre fichue maladie. Les étapes peuvent se succéder dans un ordre ou un autre, hein, suivant le type de maladie, la façon dont elle évolue. Mais il y a vraisemblablement un moment où il va falloir arrêter de conduire, à supposer qu'on ait pu passer le permis et conduire pendant un moment. Là, les conséquences concrètes dépendent énormément de la façon dont on vit. Quelqu'un qui est jeune et physiquement en forme et qui habite en plein centre de Paris, qui peut prendre les transports en commun, qui a les moyens de se payer un taxi de temps en temps quand il a besoin, finalement c'est vraiment pas un gros problème. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vivent dans Paris sans voiture, alors qu'ils ont une vue tout à fait normale et qu'ils pourraient conduire. En revanche, si vous êtes une mère seule avec deux enfants en bas âge et que vous habitez en pleine campagne à 5 km du village le plus proche, c'est sûr que sans voiture, la vie ne va pas être très facile. Donc les conséquences concrètes peuvent varier, mais dans tous les cas, le ressenti, c'est une perte d'autonomie. Même si on peut prendre les transports en commun, si on a eu l'habitude de conduire, d'avoir sa propre voiture, de pouvoir partir quand on veut, arriver quand on veut, on ressent forcément cette perte comme une perte d'autonomie. Et aussi, peut-être pour beaucoup, la première fois où ils se rendent compte qu'ils ont une perte de capacité, quoi. Quelque chose que je pouvais faire et que je ne peux plus faire. Ce n'est pas la même chose que de marcher sur un trottoir en se cognant, où là, bon, ça n'empêche pas qu'on peut quand même continuer à marcher sur les trottoirs. Donc je pense que c'est pour cette raison que la plupart des gens qui ont, une perte de vision progressive, attendent trop longtemps avant d'arrêter de conduire. C'est-à-dire arrêtent bien après que ça aurait été raisonnable d'arrêter. Alors souvent, c'est après un presque accident. Il va y avoir quelqu'un qui traverse, on ne le voit pas, on freine à toute dernière seconde, ou on le touche, mais sans gravité, et on se dit « non, là, c'est pas possible, j'ai eu de la chance cette fois-là, mais la prochaine fois, je le tuerai, je m'arrête de conduire. » Ou alors un accident normal sans gravité, mais où on se rend bien compte que l'accident était dû à un problème visuel. Quelquefois, heureusement, c'est avant l'accident, parce que quelqu'un d'autre... Oui, j'ai eu cet exemple, par exemple, quelqu'un qui a pris un ami qui conduisait, puis qui pour la première fois avait pris un ami à côté de lui comme passager, et au bout d'un kilomètre, l'ami a dit « non, écoute, tu t'arrêtes, je descends, je continue à pied, c'est pas possible. » « Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe ?»« Ah non, mais tu te rends pas compte, là, quand t'as été passé au ras de trois voitures, tu t'es pas arrêté au feu, tu ne sais pas quoi. » Et le conducteur n'en avait absolument pas conscience. Il savait qu'il avait une vue déficiente, il faisait très attention, il pensait qu'il regardait bien de tous les côtés. Et comme il n'avait jamais eu d'accident, il ne se rendait pas compte qu'il y avait un problème. Cet ami qui lui a fait arrêter, heureusement. Et puis malheureusement, dans certains cas, c'est l'accident grave qui fait qu'on arrête parce qu'on est vraiment bien obligé. Voir le retrait de permis, je n'ai jamais rencontré d'exemple personnellement de gens qui se sont arrêtés parce qu'on leur a retiré leur permis de force après un accident. Et je sais que ça arrive. Mais sinon, oui, des accidents assez sérieux de voiture complètement pliée en deux dans un réverbère parce qu'on n'a pas vu le réverbère, ça arrive aussi en voiture. Bon, en tout cas, quelle que soit la raison et la façon dont on arrête, c'est une étape importante parce que c'est le moment où on se trouve vraiment diminué physiquement, quelque chose qu'on pouvait faire et qu'on ne peut plus faire. Et disons que c'est à partir de ce moment-là, souvent, qu'on peut considérer qu'on est handicapé, qu'on se considère soi-même, quelle que soit la définition légale, le fait qu'on ait une carte ou pas, ça c'est pas le problème, mais par définition, être handicapé, c'est ne pas pouvoir faire quelque chose qu'on voudrait pouvoir faire et qu'on pense pouvoir faire. Donc si on pense que normalement on devrait pouvoir conduire et qu'à cause d'une baisse visuelle on ne peut plus, eh bien on est bien obligé d'admettre qu'on est handicapé, ce qui n'est pas un mot facile à se mettre sur soi-même. Une fois cette étape franchie, ou avant ou après, bon ben on réorganise sa vie déjà sans voiture, alors c'est plus ou moins facile. Quand on habite à la campagne, évidemment c'est plus difficile. Il y a des gens qui déménagent à ce moment-là, qui vont en centre-ville. Quand on a les moyens, évidemment, il y a des gens qui deviennent plus dépendants de leur conjoint. Quand on vit en couple, en famille, on peut répartir les tâches différemment. On dit, bon, bah, écoute, avant c'était moi qui faisais les courses, maintenant je vais te laisser faire les courses, par contre je ferai le jardin alors que c'était toi qui le faisais. Bon, ça c'est dans les cas favorables, on arrive simplement à s'adapter au travail, c'est pareil. Quelquefois, il y a des métiers où on avait besoin de la voiture. Bon, ben, si on peut, dans l'entreprise, on va demander à d'autres postes, on n'aura pas besoin de voiture. On va faire du covoiturage avec un collègue à qui on rendra d'autres services en échange. Dans des cas moins favorables, eh bien, on va être obligé carrément de changer de boulot, de déménager. Là, encore une fois, tout est question de cas particulier. Mais, bon, la voiture, en dehors de l'impact psychologique d'être obligé d'abandonner, en général n'est pas une nécessité vitale. Il y a quand même des gens qui vivent sans voiture pour des tas de raisons différentes. Et donc, si on est prêt à l'accepter, on refait sa vie en tenant compte de ça. Une autre étape qu'on franchit plus ou moins obligatoirement à un moment ou l'autre, c'est la perte de la lecture. Alors, perte, contrairement à la voiture, on ne va pas arrêter de lire du jour au lendemain. On va dire, par exemple, tiens, bah, ce soir, après une journée de travail ou autre, j'ai les yeux fatigués, j'arrive pas à lire, les lettres se brouillent sur mon livre, bon, bah, tant pis, je vais me coucher, je vais faire autre chose. Et puis, ça s'est produit un soir, puis ça va se reproduire 15 jours après, et puis de plus en plus souvent. Et puis, on va finir par s'apercevoir que, bah, vraiment, le soir, on peut plus lire. Et puis, une autre fois, ça va être le matin, et puis, longtemps après, ça va être peut-être en regardant des petits caractères sur le dotisme de médicaments, oh là là, mais j'aurais vraiment plus à les lire, ces caractères, je vais chercher une loupe. Et puis très très progressivement, comme ça, on va se rendre compte que ben, on a fini par ne plus lire de livres, par ne lire que des choses courtes, des lettres, des notices, etc., les lire avec la loupe, et on réalise peu à peu qu'on est en train de perdre la lecture. Ça peut être beaucoup plus rapide, hein, dans le cas du DMLA qui évolue rapidement, bon, ça peut être pratiquement du jour au lendemain, mais en général, on ne perd pas complètement la lecture parce que la lecture, c'est très très varié. Il y a des tout petits caractères, il y en a des très gros, on peut lire des affiches, on peut lire le nom d'un produit sur une boîte de conserve, on n'arrivera pas à lire les instructions pour le cuire, etc. Donc c'est plus une prise de conscience progressive que vraiment un événement marquant. Ceci dit, il y a un moment où on n'est plus vraiment autonome, et là, alors autant la perte de la voiture est une perte d'autonomie pour les déplacements. La perte de la lecture est une perte d'autonomie dans la vie quotidienne, bien sûr, pour les courses, pour le courrier, pour faire ses comptes. Bon, je ne vais pas vous expliquer l'importance de la lecture et de l'écriture de notre civilisation. À moins d'aller vivre dans des pays où la plupart des gens sont analphabètes, quand on vit en France et en région parisienne, c'est évidemment pas besoin d'épiloguer pour comprendre que c'est gênant de ne plus pouvoir lire. Bon, là, il y a différents moyens de s'en sortir. Il y a des appareils, déjà, il y a des loupes, donc on n'a pas besoin d'un gros, pas trop fort grossissement. Il y a des tas de lampes différentes. On arrive souvent à trouver un type d'éclairage qui nous convient mieux. Par contre, il faut en essayer beaucoup. C'est rare qu'on tombe sur la bonne du premier coup. Il faut tomber sur un marchand, un opticien ou un magasin spécialisé qui a l'honnêteté de vous vendre celle qui vous convient et pas celle qui lui rapporte le plus. Les loupes, ça passe pour les faibles grossissements, quand on a besoin de plus, ça ne va plus. Après, il y a les agrandisseurs électroniques, il y a des petites loupes électroniques de poche, et il y a aussi des gros appareils qu'on pose sur une table, avec une petite caméra qu'on promène sur le papier, ou on promène le papier sous la caméra, peu importe, et que ça projette l'image sur un écran de télévision. Là, ça permet d'agrandir énormément, d'inverser le contraste aussi. Il y a des gens pour qui c'est plus agréable de lire en fond blanc, en lettres blanches sur fond noir, quand lettre noire sur fond blanc. Et donc ça, ça permet de garder la lecture pendant très très longtemps. Alors suivant le type d'affection visuelle qu'on a, ça peut demander une certaine rééducation. C'est-à-dire que si on a une DMLA, on n'a plus de vision centrale, il faut apprendre à lire en regardant sur le côté, ce qui n'est pas du tout naturel, mais ça s'apprend. Il y a des rééducations faites par des orthoptistes qui sont très efficaces. Donc on peut arriver à conserver la possibilité de lire, par contre, on ne lira pas un roman entier comme ça, avec un télé-agrandisseur, on peut lire des choses courtes, mais c'est quand même assez fatigant. On perd, disons, le plaisir de la lecture, même si on ne perd pas la capacité pratique. Et puis, c'est quand même une perte d'autonomie, parce qu'on ne l'a pas toujours avec soi. Si c'est un agrandisseur de bureau, on ne va pas faire ses courses avec. Même si c'est une petite loupe électronique de poche, c'est pas toujours adapté, on ne peut pas tout lire avec ça. Donc on est quand même souvent amené à demander de l'aide à quelqu'un pour remplir un formulaire, par exemple, c'est vraiment pas très pratique à faire seul à la loupe, même si on peut y arriver. Pour ce qui est de la lecture récréative, je dirais, pour lire des romans, enfin d'autres livres, mais disons pour le plaisir de la lecture, là on se tourne bien souvent vers le livre audio. Alors depuis très longtemps, il y a des associations de bénévoles qui enregistrent des livres sur cassette, puis maintenant sur CD, et on peut les emprunter. Soit ils enregistrent à la demande, on leur envoie un livre et ils leur envoient sous forme audio, soit c'est des bibliothèques auxquelles on emprunte le livre et on leur envoie une fois qu'on l'a écouté. Ça, c'est très très utile. Ça ne concerne pas forcément tous les types de livres, enfin surtout les bibliothèques, elles ne vont pas avoir forcément le livre dont vous avez envie. Heureusement qu'il y a des enregistrements à la demande aussi. Depuis quelques années, le livre audio se répand maintenant même dans le grand public. On en trouve dans les FNAC et dans toutes les librairies, essentiellement pour des gens qui veulent les écouter en voiture. Comme, je ne vais pas vous faire la scène des rythmes trépidants de la vie moderne et du fait que les gens n'ont plus le temps d'eux, etc. Mais il est vrai que quand on passe 2 heures par jour ou 3 heures par jour dans les bouchons pour aller au travail, au lieu de perdre ce temps-là ou d'écouter ce qui passe à la radio et qui n'est pas toujours ce qu'on a envie, il y a beaucoup de gens maintenant qui achètent des CD et les écoutent dans leur voiture. Et du coup, pour les malvoyants, c'est une aubaine parce que ça veut dire que l'offre s'est beaucoup étoffée, et en particulier des livres récents. Maintenant, il y a des livres qui sortent pratiquement en même temps, imprimés en audio, alors qu'avant, il fallait toujours attendre des mois ou des années avant de les avoir. Là, c'est un cas où une mode ou une tendance dans le grand public a des conséquences bénéfiques pour certaines personnes handicapées. Bien, après ces étapes, ou avant d'ailleurs, j'ai évoqué encore une étape difficile et importante, c'est la canne, la fameuse canne blanche ou canne jaune, je vais y venir dans quelques instants. Alors la canne, qu'est-ce que c'est? C'est un outil pour les déplacements, elle permet de détecter les obstacles sur le trottoir, enfin partout où on se déplace, et c'est aussi un signalement. Ça permet aux gens en face de qui on est de savoir qu'on a une déficience visuelle. Alors ça, c'est la meilleure et la pire des choses. Évidemment, c'est très pratique quand on se déplace, la personne qui vient en face de vous, elle ne va pas attendre que vous l'évitiez, si elle voit que vous avez une canne, c'est elle qui va faire un pas de côté pour vous laisser passer. Vous arrivez au guichet du bureau de poste, au lieu qu'on vous dise il faut que vous remplissiez ce formulaire, l'employé va vous envoyer votre canne, va vous dire est-ce que vous voulez que je remplisse ce formulaire pour vous? Tout simplement, si vous bousculez quelqu'un dans la rue, il se retourne pour vous engueuler, il voit la canne, il s'excuse. Au lieu de vous engueuler, c'est lui qui s'aplatit devant vous. Bon, c'est quand même plus agréable que de se faire engueuler pour quelque chose dont on n'est pas responsable. Donc ça, c'est le bon côté de la canne. Le côté plus désagréable, évidemment, c'est que on étale aux yeux de tout le monde, on dit « je suis handicapé ». Alors quand on est vraiment aveugle, prendre un symbole que tout le monde dans le monde entier reconnaît comme voulant dire « je suis aveugle », pourquoi pas, c'est une réalité. Quand on est malvoyant, prendre un symbole qui signifie « je suis aveugle », là, c'est vraiment très très dur. Ça veut dire, d'une part, s'identifier avec ce qu'on n'est pas et ce qu'on craint de devenir à l'avenir, ce qu'on est à peu près, enfin plus ou moins, j'allais dire sûr de devenir, c'est pas vrai, ça dépend de ce qu'on a comme maladie, si on a une DMLA, on ne deviendra certainement jamais aveugle. Mais en tout cas, s'afficher comme un aveugle, alors qu'on ne l'est pas, c'est évidemment pas réjouissant. Et en plus, ça prête à des malentendus. qu'on peut encore lire. Par exemple, si on a besoin d'une canne parce qu'on ne voit plus sur les côtés, donc on se cogne dans tous les obstacles, on prend la canne pour éviter les obstacles, mais on a encore une bonne vision centrale. Donc on va monter dans le métro avec sa canne blanche, sortir son journal de son sac et se mettre à le lire. J'ai un ami qui faisait ça régulièrement. Évidemment, il s'attirait des remarques un petit peu bizarres. Sinon, qu'est-ce que c'est que ce faux aveugle? Il prend une canne blanche pour mendier. Et même sans lire son journal, ça se voit bien quand on se déplace quelque part, qu'on n'est pas aveugle, quand on contourne les obstacles avant de les avoir touchés, les gens se demandent pourquoi on a une canne. Donc, évidemment, ça fait reculer. Alors là, comme je disais tout à l'heure pour la conduite, pour la canne c'est pareil, la plupart des gens la prennent beaucoup trop tard, c'est-à-dire qu'ils auraient dû la prendre avant pour leur propre sécurité, voire celle des autres. J'avais fait un petit calcul à un moment, avant moi-même d'utiliser une canne, j'avais estimé que je pouvais voir et éviter 99% des obstacles que j'encontrais sur mon chemin. Je me suis dit, 99%, ça fait une vue quasiment normale. Prendre une canne blanche, quand on voit 99%, c'est complètement ridicule. Quand je verrais à 5%, peut-être que je prendrais une canne, mais pas avant. Et puis, donc, j'ai fait ce calcul. Sur mon trajet quotidien pour aller travailler, il y avait en gros une dizaine d'obstacles. Certains fixes, des réverbères qui étaient toujours là en plein milieu du trottoir, et puis des voitures mal garées, des poubelles mal rangées, donc des obstacles imprévisibles. Bon, une dizaine. Trajet de retour le soir, les mêmes 10, ça fait 20. Du lundi au vendredi, 5 jours, 5 fois 20, 100. Ça veut dire que dans la semaine, rien que sur mon trajet pour aller au travail, je ne parle pas du reste, je croisais environ 100 obstacles. J'ai détecté 99% d'entre eux. Conclusion, je me cognais par l'un d'entre eux. Ça veut dire qu'une fois par semaine, je me retrouvais avec un bleu, soit sur le front, soit sur le tibia, un bleu ou même une écorchure, une égratignure, quelquefois ça saigne. Une égratignure comme ça, ça prend combien de temps à cicatriser? Une à deux semaines. Je m'en refaisais une toutes les semaines. Vous faites le calcul, ça veut dire que j'avais jamais un corps intact. J'avais en permanence une blessure, alors soit visible sur le front, soit pas visible sur les tibias, mais tout aussi douloureuse. Donc c'est ce calcul qui m'a fait prendre conscience que même quand on voit 99% des obstacles, la canne peut être utile. Alors évidemment, je me baladais sur le trottoir, ma canne elle touchait jamais rien puisque je contournais tous les obstacles. Il y a juste une fois par semaine où c'est la canne qui cognait une poubelle ou une voiture et je faisais un pas de côté à ce moment-là. Si quelqu'un m'avait observé, il serait dit « mais c'est ridicule, qu'est-ce que c'est que ce type qui prend une canne pour toucher une poubelle une fois par semaine ?» Ben, n'empêche que depuis ce temps-là, mon corps est à peu près présentable. Donc je cite souvent ça comme exemple aux gens qui en sont à ce stade, où ils ont l'impression qu'ils voient suffisamment bien, ils disent « oui, je me cogne une fois de temps en temps, je ne peux vraiment pas m'afficher comme aveugle », et pourtant, leur corps leur réclame. Alors il y a quand même une solution qui a été inventée, une solution partielle, je dirais, à ce problème, qui est la canne jaune. Donc la canne blanche est connue depuis les années 30, la canne jaune a été inventée en 1997, je crois, en Belgique, une dame qui s'appelle Susanna van den Kibom, et qui était malvoyante, qui ne voulait pas de canne blanche, et qui a dit, mais si je prends une canne jaune, vu de loin, quand je traverse la rue, que les voitures me voient, enfin les automobilistes me voient avec ma canne, ils vont réagir pareil que si elle était blanche, il n'y a pas de problème. Les gens qui croisent rapidement sans faire attention vont se comporter comme face à un aveugle, ce qui est bien ce que je veux. Par contre, les gens qui vont s'arrêter, discuter, regarder un peu, me voir sortir mon journal, ceux-là, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de différent. Et ils vont comprendre que ma canne n'est pas blanche, donc je ne suis pas aveugle. Et effectivement, ça a très bien marché. Alors après, il y a eu des histoires, elle a réussi à faire passer une loi en Belgique, et il n'y a eu aucune publicité faite autour de cette loi. Les associations d'aveugles ont protesté, je n'ai jamais très bien compris pourquoi, ils étaient contre. Des gens qui utilisent une canne blanche sont contre le fait que d'autres utilisent une canne jaune. La logique m'échappe, mais c'est comme ça. Et donc, on est quelques-uns en France à avoir entendu parler de ça, à avoir lancé l'idée aussi. J'ai fait partie des militants de la canne jaune, j'en utilise toujours une d'ailleurs. Il y a un site web sur le sujet. Et bon, il y a quelques. Alors c'est difficile de savoir exactement combien, mais on estime à quelques centaines de gens, les utilisateurs de canne jaune. Donc ils sont des gens dans cette tranche, je dirais, qui voient suffisamment peu pour avoir besoin de se protéger des obstacles, mais suffisamment bien pour que leur vue leur soit quand même bien utile et donc qu'ils ne veulent pas être confondus avec des aveugles. Bon, je reviendrai là-dessus si ça vous intéresse, si vous avez des questions à la fin. En tout cas, c'est bon à savoir si vous connaissez des gens dont vous pensez que la canne leur serait utile, mais qui ne sont pas du tout psychologiquement prêts à prendre une canne blanche, ils ont raison, leur faire savoir qu'il y a cette autre possibilité qui existe. Bien, et puis ensuite, les étapes suivantes, la vue continue à se dégrader. Là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce qu'on entre plus dans le domaine de la cécité, qui n'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui, qui est fort intéressant quand même, évidemment. Là, on va avoir, à un moment ou à un autre, besoin de ce qu'on appelle une rééducation. Je n'aime pas trop le terme, mais moi, je préfère une formation, c'est-à-dire d'apprendre à refaire les gestes de la vie quotidienne, les déplacements, la cuisine, etc., autrement, sans utiliser sa vue. Au stade où j'en ai fait, auparavant, je parlais toujours de la vue utile et fonctionnelle, même si elle est réduite, et donc il faut la compenser en partie. Après, il vient un moment, il peut venir un moment, pas forcément, où la vue n'est plus utilisable, et donc on entre dans le domaine de la cécité, même si on a encore une perception lumineuse, une perception des ombres, des formes, quand la vue ne donne plus assez d'informations pour qu'on puisse vraiment les utiliser, il faut apprendre à faire sans. Donc avec les oreilles, avec le toucher. Là, il y a tout un tas de techniques, il y a tout un tas de matériel aussi. On peut avoir une montre parlante quand on ne peut plus lire sa montre. On peut avoir des livres audio, j'en ai déjà parlé. Il y a tout un tas d'appareils qui existent, qui sont parlants. On peut avoir un porte-monnaie dans lequel on classe les pièces, chacune dans une pochette différente, pour pouvoir les retrouver facilement. On apprend comment reconnaître les billets de banque au toucher, il y a des moyens de les identifier. Il y a des centres de formation, de rééducation, qui apprennent à faire tout ce qu'on a envie de faire en utilisant d'autres sens que la vue. Bien, donc là, une fois qu'on est dans le domaine de la cécité, je dirais que c'est un peu une autre vie qui commence, même si elle se fait très progressivement. Jacques Semelin a écrit un très beau livre qui s'appelle « J'arrive où je suis étranger ». Il considère que quand il est devenu aveugle, il est arrivé dans un autre pays. Et c'est un peu vrai, puisqu'on rencontre des aveugles de naissance qui, eux, ont toujours vécu en utilisant leurs autres sens, qui sont parfaitement adaptés, qui trouvent ça naturel. Et pour la personne qui a perdu la vue tardivement, ça peut être à 25 ans comme à 80, il faut apprendre, c'est un peu comme une langue étrangère. On rencontre des gens dont c'est la langue maternelle, et soi-même, on commence par la belle blessée, et puis peu à peu, au fur et à mesure qu'on la pratique, on devient de plus en plus à l'aise. En général, sans jamais atteindre le niveau des gens dont c'est la langue maternelle. C'est l'analogie entre la cécité et la langue étrangère est bonne de ce point de vue-là, puisque si vous émigrez dans un pays étranger à l'âge de 30 ans ou 40 ans, vous ne parlerez jamais la langue exactement comme les natifs. Si vous devenez aveugle tardivement, vous pourrez arriver à être très bien adapté, mais généralement pas aussi bien qu'une personne qui a toujours vécu comme ça. Bien, après ce tour d'horizon, donc encore une fois, j'espère que beaucoup d'entre vous se sont reconnus dans certaines situations et personne dans toutes. J'en viens au rôle des associations, mais en particulier de Rétina France, puisque c'est cette association que je représente. Rétina, comme son nom l'indique, donc au départ a été créée il y a 25 ans, en fait le 25e anniversaire cette année, par une personne atteinte d'une maladie de la rétine, Nicole Coldebeuf, qui à l'époque ne connaissait pas d'autres gens dans le même cas, et surtout il y avait très très peu de recherches médicales, les ophtalmos ne connaissaient pas ces maladies, et grâce à Rétina entre autres, grâce à d'autres associations, grâce à l'évolution naturelle de la recherche simplement, peu à peu la recherche en ophtalmologie s'est développée, et une des choses qu'on a découvertes, c'est que les différentes maladies de la rétine qu'auparavant les ophtalmos se contentaient de classifier, d'identifier chacune de son côté, en fait avaient beaucoup plus de choses en commun qu'on ne pensait. Et donc l'association a élargi ses objectifs, tout en gardant le nom de Rétina, enfin en prenant le nom de Rétina, même si ce n'était pas son nom au départ, mais peu importe. Et c'est étendu maintenant, le slogan c'est « Vaincre les maladies de la vue ». Parce qu'on s'est aperçu que, en fait, les différentes maladies de la rétine ont toutes des relations entre elles, et même avec d'autres maladies, avec la cataracte, le glaucome. Quand on fait des recherches sur l'une de ces maladies, on tombe souvent sur des choses qui peuvent servir à d'autres. Donc cette association est devenue maintenant, bon, elle accueille tous les gens ayant des maladies de la vue. Donc il y a, contrairement à d'autres associations, il n'y a pas énormément de gens qui sont totalement aveugles, mais il y en a. Et sinon, il y a des gens qui voient encore très bien, mais qui savent que leur vue va baisser. Et puis il y a des gens à tous les stades intermédiaires. C'est une association de malades. C'est-à-dire qu'il y a d'autres associations dont le rôle est d'aider les aveugles en particulier. Par exemple, l'association Valentin à Huy, qui organise des sorties, qui vend du matériel, qui fait des formations, c'est un tas de choses très bien. Mais les gens qui travaillent dans cette association ne sont pas eux-mêmes atteints en général. À Rétina, c'est vraiment le but, c'est les malades qui se regroupent entre eux pour se prendre en charge. Tous les membres du conseil d'administration, par exemple, ont eux-mêmes une maladie de la vue. Ce qui pose quelquefois des problèmes pratiques dans les réunions. On arrive à s'en sortir. Donc le rôle de cette association, le premier objectif, en termes de moyens surtout, c'est de soutenir la recherche médicale. Donc l'association a réussi, à force d'accumuler des fonds, à créer son propre laboratoire, le CERTO, le Centre d'études et de recherche thérapeutique en ophtalmologie, dont le directeur Marc Abitbol ici présent, qui va nous parler tout à l'heure, et qui a été le premier laboratoire consacré vraiment exclusivement à la recherche de traitements pour les maladies de la vue, maladies de la rétine en particulier. Il y a bien sûr beaucoup d'autres labos qui font de la recherche fondamentale, il y a des labos de recherche médicale qui cherchent des traitements dans différents domaines, mais là c'est le premier qui était vraiment entièrement axé là-dessus, ce qui veut dire qu'il y avait vraiment un espoir sérieux de trouver des traitements pour ces maladies, et le docteur Abitbol nous en parlera dans un instant. Mais c'est pas, il n'y a pas que ça, le Rétina subventionne des recherches dans toute la France. Le principe est très simple, on fait chaque année un appel d'offres, les équipes de recherche, les laboratoires qui sont intéressés, qui travaillent dans le domaine de la vision, envoient leurs projets de recherche. Il y a un comité scientifique composé de chercheurs qui les classe du plus intéressant ou plus pertinent, du plus utile ou moins intéressant à financer. Et ensuite, on regarde ce qu'on a comme fonds à l'association pour cette année-là, et on dit, ben voilà, on va pouvoir financer le premier, les deux premiers, les 10 premiers, et les 20 premiers projets, suivant l'argent qu'on a. Donc vous voyez que le raisonnement est très simple. Si on a deux fois plus d'argent, on finance deux fois plus de projets de recherche. C'est pas compliqué. Clémenceau disait, pour faire la guerre, il faut trois choses. Il faut de l'argent, et encore de l'argent. Et pour faire de la recherche médicale, c'est la même chose. Donc ça, c'est l'objectif principal en termes de moyens auxquels l'association consacre ses moyens, puisque évidemment la recherche médicale, ça coûte cher. Je ne vous parle pas des résultats, puisqu'on aura, on les aura directement de la bouche de l'un des principaux acteurs du domaine. Pour pouvoir financer ces projets de recherche, bien entendu, il faut de l'argent. Donc il y a des cotisations des adhérents, il y a des dons, mais on fait aussi des manifestations dont le but est de collecter des dons. Donc c'est un deuxième volet des activités de l'association. Donc Marinette Richet a parlé tout à l'heure, a fait allusion à 1000 cœurs pour un regard, qui est notre grande opération annuelle, où des chorales dans toute la France organisent des concerts. Évidemment, tous ces chorales sont bénévoles, et les recettes des concerts vont alimenter la cagnotte de Rétina. C'est aussi l'occasion de faire un peu connaître l'association et de parler de ces maladies de la vue. Il y a d'autres manifestations, on organise un peu toute l'année, dans toute la France, des spectacles divers et variés, des courses, un tas de types d'opérations différentes. Et puis alors, l'autre grand volet des activités de l'association, c'est le soutien aux personnes atteintes de maladies de la vue. Ça, ça se fait de différentes façons. Il y a une permanence téléphonique, où je ne vous ai pas dit que le siège de l'association est à côté de Toulouse, à Colomiers, donc il y a le siège national, et puis des correspondants locaux dans tous les départements. Donc au siège, il y a des salariés qui assurent une permanence téléphonique toute la journée sur le bureau. Et là, on peut appeler, soit simplement pour parler des difficultés qu'on rencontre, ou alors pour demander des conseils bien précis. Il y a un service qui s'appelle Retina Info. On peut avoir des conseils juridiques, fiscaux, tout ce qui concerne le handicap, le droit du travail, etc. Tout. Et puis le matériel, les centres de formation, enfin, toutes les questions pratiques qui peuvent se rencontrer quand on commence à perdre la vue, quand on passe un certain stade de table de vision. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui ont un gros fonds de documentation, qui se tiennent au courant des changements de la législation. Et puis, donc, il y a les correspondants locaux qu'on peut joindre au téléphone ou rencontrer personnellement pour discuter, échanger, aussi bien sur les aspects pratiques. Donc, je ne sais pas, avoir l'adresse d'un bon opticien spécialisé dans la basse vision ou autre, que sur le côté plus psychologique, simplement savoir quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué, comme il a dit, vous allez être aveugle, bah, il panique, il se demande ce qu'il peut faire, est-ce que sa vie va basculer. Donc, le fait de pouvoir parler à quelqu'un qui a vécu ça avant lui et qui est plus avancé sur le chemin, évidemment, ça, c'est une grande aide. Donc voilà, je suis le correspondant local pour l'Essonne. Si vous connaissez des gens concernés, surtout, n'hésitez pas à leur donner mes coordonnées. J'ai des cartes de visite sur moi si vous voulez venir me voir à la fin, il n'y a pas de souci. Il y a aussi des rencontres, bon, comme aujourd'hui, des conférences, des colloques pour s'informer. Il y a un grand colloque national chaque année à Paris qui s'appelle Vision et Recherche, à la fin novembre, où là tous les chercheurs viennent présenter leur activité de recherche de l'année. Et puis il y a des groupes réguliers. Donc pour ma part, j'anime ce qu'on appelle un groupe de parole, c'est peut-être pas très bon terme, plutôt un groupe d'échange. Donc on se retrouve une fois par mois, le samedi de 14h à 16h, à Palaiseau, tout près de la gare de Massy-Palaiseau, pour que ce soit facile d'accès. Et là, on est entre 4 et 12 personnes suivant les fois, c'est pas régulier, mais on se rencontre pendant 2 heures pour échanger, et parfois recevoir des gens qui viennent nous présenter tel ou tel sujet en rapport avec la malvoyance. Par exemple, là, le 10 octobre, à notre prochaine rencontre, il y a quelqu'un qui a mis au point un système avec un lecteur de code barre qui permet, quand on a un produit, un médicament, par exemple, on ne peut pas lire la notice, avec un lecteur de code barre, un ordinateur, hop, on va rechercher automatiquement la notice et l'ordinateur la lit à haute voix. Bon, ben, ce monsieur va venir nous présenter son système, on va en discuter, on va l'essayer. Voilà le genre de choses qu'on peut voir. L'année dernière, on avait eu quelqu'un qui avait perdu la vue à la suite d'un choc émotionnel et qui avait réussi à la retrouver par des techniques de retour sur soi, de méditation, etc. Bon, c'était pas une maladie organique de la rétine. Hein. Je ne prétends pas qu'il y ait des miracles, des guérisons miraculeuses. S'il y en a d'ailleurs, mais je ne peux pas les faire venir sur commande. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on parle de sujets très, très divers. Et puis, il y a le côté convivial, peu à peu on devient des amis. Et c'est bien agréable de pouvoir partager avec des gens qui vivent la même chose que nous. Donc ça, c'est un des volets des activités de Retina France. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute.